Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, désormais un seul sur les trottinettes, mais deux pour Mediapolis avec Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde.
Bonjour à tous et aujourd'hui donc dans Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique qui est préparée par Capucine Patouillet et réalisée aujourd'hui par Julien Blanc. Nous recevons Marion Mourgue, grand reporter au Figaro, co-auteur avec Gérard Larcher de Contre-pouvoir aux éditions de l'Observatoire. Et pour commencer, le Cantelou.
Faut-il interdire les listes communautaires pour les municipales? Une liste en particulier est dans le viseur, l'Union démocrate des musulmans français, soupçonnée de communautarisme. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour ma chère Julie.
On a entendu le petit cri déjà.
J'ai fait les aigus ce matin, ma chère Julie. Merci de m'accueillir à nouveau sur votre antenne, ça fait très plaisir.
Alors revenons à cette liste, ces listes communautaires même, faut-il les interdire?
Écoutez, déjà, on ne le peut pas vraiment. Sinon, il faudrait interdire les listes ostensiblement chrétiennes de Christine Boutin ou de Philippe Villiers. Or, on a besoin, ça permet de rigoler un peu pendant la campagne.
Non, mais la liste de l'Union démocrate des musulmans français, alors...
Forcément, cette liste pose question. Après, bon, aux dernières élections, elle a fait 0,13%, cette liste. 0,13%, c'est rien. À titre de comparaison, la liste du parti animaliste a fait 2,17%. C'est-à-dire que pour l'instant, on a 8 fois plus de chances d'élire un hamster plutôt qu'un musulman. Après, on peut toujours s'inquiéter qu'un canari devienne maire de Strasbourg ou un sanglier devienne maire de Pau. Mais à mon avis, on s'y inquiète pour rien.
Et oui, c'était donc Nicolas Cantelou qui rigolait, comme peut-être c'est la meilleure manière de faire. On verra lundi à propos des listes communautaires proposées par Bruno Retailleau.
Ce que je constate, moi, c'est qu'il y a un islam politique en France qui est en train de construire une contre-société à visée séparatiste. Et je pense que le constat est sous nos yeux. Il y en a de multiples preuves. Et si on ne réagit pas, si on ne pose pas des limites républicaines, alors, vous verrez, demain, on aura des têtes de liste qui pourraient s'emparer de villes en France. Donc moi, je pense que cette question-là, elle est grave parce qu'elle nous concerne, elle concerne la République. Quelle République, quel modèle de société on veut? Est-ce qu'on veut toujours la laïcité en France?
Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat sur RMC, ce mardi. Alors, Madame Ney, les listes communautaires?
Écoutez, je crois que ce qui avait mis le feu aux poudres, c'est le résultat d'un bureau de vote à Maubeuge sur lequel Xavier Bertrand s'était beaucoup inquiété et qui, pour aux européennes, avait fait une pointe à 40,94%, ce qui est beaucoup,
vote. Non, c'est encore un truc qui a été monté par Darmanin et par les médias, parce que c'est 40% des exprimés, record absolu de l'abstention. Vous savez combien il y a eu de votes?
Non, mais je peux...
70 votes. Attendez, arrêtez. On met le débat public à feu et à sang sur un truc à Maubeuge. On se dit, Maubeuge, 40%.
Mais attendez.
C'est un bureau de vote, 70 votes.
Bon, mais j'allais vous dire qu'à Maubeuge, aux européennes, qui était arrivé en tête? C'est le Rassemblement National avec 37,43%, soit 10 points de plus que son score national, malgré l'absence de vote ou les... Bon, les En Marche, les candidats macronistes, 14%. Et la fameuse liste UDMF, c'est-à-dire communautariste, a eu 6,10% des voix. Derrière la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Donc, le péril d'un maire communautariste à Maubeuge, je ne le vois pas venir. Voilà, donc on fait peur, mais ça a suffisamment créé la polémique pour que Libération en fasse un grand parti et qu'on invite cette liste qui a fait peanuts en majesté sur BFM TV.
Vous partagez
Non.
Tempête dans un verre d'eau.
Ça va vous réjouir. Non, alors c'est sûr que si on rapporte ces chiffres à la participation, la liste, elle a peu d'écho. Le problème, c'est qu'elle existe déjà et qu'elle a envie d'exister encore plus, puisqu'elle a existé pour la première fois aux européennes, elle veut exister dans 50 villes au municipal, on verra si elle y arrive, mais ça veut dire qu'elle a déjà une existence. Alors, on peut fermer les yeux et dire ça n'a pas d'importance parce qu'il y a 70 personnes dans un vote, dans un bureau de vote qui se sont prononcés pour la liste. Mais il y a 15 ans, on n'avait pas ces listes communautaires.
Bon, alors donc, j'ouvre les yeux. Alors, j'ouvre les yeux et je vois une liste.
Le problème, je suis d'accord, c'est que...
Et quel est le problème de ce
parti? Non, le problème, c'est comment on répond. C'est-à-dire que l'initiative de Bruno Retailleau, ok, elle a le mérite d'exister, mais comment on se prononce sur une liste communautariste? Et c'est là la difficulté. C'est comment on va répondre, comment on va dire cette liste est communautariste, puisque les gens sont suffisamment intelligents pour ne pas cocher toutes les cases et se faire interdire.
Mais en fait, on dit communautariste, mais on veut dire musulmane.
Oui.
Hein? Parce que si c'est un parti, si c'est Boutin, on ne dit pas communautariste.
Bah, là, pour la première fois, on a quand même une liste qui s'adresse à une communauté et non à l'ensemble des Français.
C'est pas ce qu'elle dit.
Si, c'est ce qu'elle dit. Son président, Naguib Azergui, a dit que c'est un parti non conventionnel, laïque et profondément républicain, laïque, mais qui ne se cache pas de vrai au seul profit des musulmans. Donc, c'est une liste communautariste.
Et puis, quand vous regardez le programme, c'est profondément pour les musulmans. Donc, c'est
oui, mais alors,
pour
est-ce que... Moi, je me pose la question. Pour l'instant, le vote communautariste n'existe pas. C'est un épiphénomène. Et en faisant cette publicité, en les invitant justement, M. Naguib Azergui, à BFM TV et sur toutes les chaînes, est-ce qu'on n'en fait pas un héros? Et est-ce qu'on ne fait pas une publicité qui... Celle-là, c'est ça qui est dangereux, non?
Oui, là, c'est vrai qu'il a eu une belle tribune et ça a mis la lumière. C'est un peu le problème des médias et on le sait tous.
C'est-à-dire que...
Alors, vous voyez, Marion Mourgue, au-delà même le point que je partage avec Catherine, et je vais même plus loin, je pense que nous sommes le seul pays au monde qui est capable, pendant 3 semaines, de se passionner avant tout sur 2 sujets. Premièrement, un parti qui fait 0,13% des voix. Et deuxièmement, est-ce qu'il faut une loi ou pas une loi pour interdire les maires d'accompagner des enfants scolaires couvertes d'un foulard? On est capable de consacrer un temps infini à ces 2 questions. Et ma thèse, c'est que quoi qu'on pense sur le fond, en faisant une montagne de ces micro-sujets, il y a 2 conséquences et 2 conséquences seulement. On fait monter le populisme et on fait monter l'islamisme.
Bien sûr, mais ça, c'est des débats qu'on
bien
a
sûr.
Déjà eus, par
Vous
exemple.
Êtes d'accord
là...
avec moi.
Oui, bien sûr que là, on
bah,
en a...
Il faut le dire à Alexis Brézé, alors le patron du Figaro.
Ça n'empêche pas qu'il y ait un problème derrière. C'est-à-dire que peut-être qu'on en fait trop et qu'on en parle trop, mais il y a une réalité derrière qui est une vraie inquiétude des Français par rapport à un modèle qui ne serait pas celui de la République qui se met en place, avec un vrai islam politique qui est de plus en plus présent. Et ça, il y a une inquiétude des Français. La question, c'est comment on y répond. Alors, peut-être que médiatiquement, on en fait trop, on met la lumière sur ce qui aujourd'hui apparaît comme un petit problème au vu des résultats, mais ce n'est pas pour ça que le problème n'existe pas et que demain, on n'aura pas d'autres listes de plus en plus importantes. Alors, est-ce qu'on attend qu'il y ait des listes qui fassent 45% avec une vraie participation pour se dire qu'il y a un problème, ou est-ce qu'on essaye de le traiter politiquement en y apportant des réponses?
Moi, je vous réponds, en faisant tout ce cirque, vous les faites monter. Et alors que si vous ne faisiez pas tout ce cirque... Il n'existerait
mais dans
pas
ces cas-là, ça veut dire
qu'on
ferme les yeux et on se dit
mais
alors
non,
à nos beuges...
pas les yeux, on regarde les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ce sont éventuellement les désertions de l'école publique vers des écoles coraniques. Les vrais problèmes, ce sont évidemment quelques quartiers d'emprise, tantôt de la drogue, tantôt
ces problèmes peuvent s'ajouter, c'est-à-dire qu'il y a aussi une inquiétude. Il
mais
suffit d'aller dans certains quartiers pour
ridicule.
Voir.
Bon.
Non, mais sur le terrain, il y a quand même une inquiétude et on voit qu'il y a un modèle républicain qui est aussi remis en cause. Ça n'empêche pas de le regarder.
Il y a quelqu'un qui est très 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 content de tout ce qui se passe. Qui? Bah vous le saurez dans quelques instants.
Europe 1. Mediapolis.
C'était donc dimanche dernier, grand jury sur une chaîne radio concurrente avec Le Figaro, le journal de Marion Mourgue et LCI, Marine Le Pen. Ce qui est assez drôle, c'est comment, avant de dire la question, c'est pas moi, la question, c'est ce qu'il faut faire pour les Français, elle a quand même lâché, peut-être involontairement, parce que je m'apprête à être candidat à la présidentielle pour une 3e fois.
Oui, mais on voit qu'il y a une sacrée évolution du discours et qu'il y avait presque besoin de cette évolution du discours. Si on reprend, il n'y a pas très longtemps, une interview dans le Figaro, c'était en mai dernier, de Marine Le Pen, elle ne parle pas de la présidentielle en termes d'envie, elle en parle en termes de responsabilité, de devoir, et elle évoque que c'est une charge. Et depuis des mois, elle laissait entendre qu'elle pourrait ne pas être candidate parce que c'était aussi un sacrifice, et même à sa rentrée en septembre dernier, sa rentrée politique, il y avait encore ce suspense.
Vous savez, Marion Mourgue, vous êtes une encore très jeune journaliste politique, si je puis me permettre. Vous connaissez la thèse de Catherine Ney concernant la présidentielle. La condition première pour devenir président de la République, elle tient en un mot, envie.
Oui, et pour avoir beaucoup suivi Nicolas Sarkozy, je sais que c'est celui qui en a le plus envie qui peut remporter le morceau. Sauf que Marine Le Pen, elle s'est posé pas mal de questions. On se souvient quand même qu'il y a eu le débat raté de l'entre-deux-tours et l'entourage de Marine Le Pen lui a dit « ça serait pas mal quand même de réorienter un peu le discours, de mettre une communication un peu plus positive, parce qu'on sait aussi que dans cette famille, il y a une nièce qui est très présente. »
Oui, justement, je crois que l'envie est proportionnelle à la disparition de la nièce qui, elle, a dit qu'elle ne serait pas candidate en 2022. Ce qui dégage quand même pas mal l'attente qu'il l'avait sur le dos et qu'il se demandait parce que la presse avait encensé une jeune femme qui est sûrement très intelligente mais qui n'a rien prouvé. Donc, elle, aujourd'hui, Marine Le Pen, d'abord, elle est débarrassée de Philippot. Ça veut dire que tous les thèmes qui lui ont beaucoup nui, comme la sortie de l'euro, un programme économique très à gauche qu'elle ne pourrait pas financer, elle est dégagée de ça. Et on voit que tout en étant toujours fâchée avec le père, ce qu'elle reprend comme thème, c'est les thèmes du père, c'est-à-dire ce qui a fait prospérer le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, c'est-à-dire les difficultés économiques, mais surtout l'immigration.
Sauf l'obsession des blagues antisémites. La seule différence qui reste, si et qui est très importante, c'est celle-là. Hein. Oui, moi, j'ai un ami réalisateur, Frédéric Compin, qui est en train de faire un film sur quelqu'un qui vote Front National. Et c'est très intéressant, c'est une caissière devenue comptable et qui dit « J'aurais jamais voté pour ce raciste de Le Pen, mais elle, je peux voter pour elle.
Oui. » Cette semaine, Emmanuel Macron lui a donné l'occasion de revenir, évidemment, dans son débat préféré. C'est la visite du président dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe et à La Réunion. Où, là, c'est vrai que Marine Le Pen, elle, aux européennes, c'est là où elle a fait son meilleur score. À Mayotte, sur fond d'immigration clandestine, elle a fait 56% des voix. À La Réunion, elle est numéro 1 avec 31,2%. Partout, elle est numéro 1. Et elle dit quoi ?
Votre petit parti, machin, qui est musulman, qui nous observe.
Oui, petit parti.
Partout, Emmanuel Macron arrive en troisième position. Et donc, elle peut dire, il vient, il fait des promesses. En fait, il ne change rien. Donc, elle prospère en espérant augmenter son score dans ces territoires d'outre-mer pour la présidentielle.
Oui, mais je reviens quand même à cette idée qu'il fallait montrer qu'elle en avait envie parce qu'il fallait faire oublier aussi ce désastre de 2017. Et il y a beaucoup de gens au Rassemblement National qui ont douté et qui se sont dit « c'est peut-être pas la bonne personne ». Et donc, c'est ça qu'elle doit aussi réinstaller avant
mais
même les résultats,
pas, moi,
avant 2022.
Oui, mais vous savez ce que disait Mitterrand, les Français sont un peuple sans mémoire. Et c'est vrai qu'il y a trois ans, on s'est dit jamais plus elle pourra remonter de ce fiasco de débat. Mais aujourd'hui, on l'a presque oublié.
Alors on note
qu'elle a minci, qu'elle a changé d'homme, qu'elle s'est débarrassée. Voilà. Et donc, elle est comme régénérée et repartie pour peut-être, est-ce que le plafond de verre, elle le croit. Moi, j'en doute toujours. Mais voilà, elle est relancée, elle est remontée sur sa bête.
Il y a le plafond de verre électoral et puis il y a les questions économiques et sociales qui restent quand même chez elle. Un point faible.
Oui, parce qu'elle dit qu'elle n'a rien fait pour les agriculteurs et tout ça, elle n'a absolument rien à proposer.
Alors, et elle n'a pas avancé là-dessus.
J'ai essayé d'en placer une.
Eh bien, c'est à vous, mon cher Olivier, c'est
non,
à vous.
Non, c'est pas
non,
du
non
tout
je ne dis plus rien.
Malheureusement, c'est pas à moi. C'est à la brève interruption. Peut-être à moi dans deux minutes si ces dames me laissent la parole, mais c'est pas sûr.
Chaque samedi de 10h à 11h sur Europe 1, vous écoutez Mediapolis. C'est avec vous, Olivier Duhamel et Catherine Ney. On vous retrouve avec votre invitée Marion Mourgue. Elle est grand reporter au Figaro et son livre « Contre-pouvoir » coécrit avec Gérard Larcher est sorti le 16 octobre dernier aux éditions de l'Observatoire.
Et alors j'ai profité de la petite pause pour demander à Marion Mourgue et à Catherine Ney si je pouvais faire une petite intervention et elles m'ont dit d'accord. Donc je vais en profiter. Vous avez toutes les deux repris la doxa, pour ne pas dire le cliché, sur lequel l'élection présidentielle de 2017 avait été une catastrophe pour Marine Le Pen à cause de ce débat pitoyable pour elle. Je suis d'accord qu'elle a été mauvaise dans le débat, mais je pense que c'est une erreur de parler d'une élection catastrophique. Elle a porté le score du Front National à un niveau sans précédent, 33-34% des suffrages exprimés, des millions de voix qui n'avaient jamais été atteintes. Et donc, est-ce que c'est quand même pas un signe d'une déformation médiapolitique du regard d'attacher plus d'importance à deux heures de débat que à un résultat électoral réel considérable ?
Eh bien non, parce que ce 33%, c'est vrai que c'est un résultat considérable, mais si ses proches pensaient qu'elle pouvait un jour dépasser le plafond de verre, il aurait fallu qu'elle atteigne 40%. Et tant qu'elle n'atteint pas 40%, eh bien c'est que le plafond de verre n'a pas cédé. Voilà. Et c'est son problème aujourd'hui.
Oui, mais quand on passe de 20, 18 qu'avait fait son père en 2002 quand on passe du score précédent qu'on avait fait, qu'on monte à chaque fois, on ne casse pas le plafond de verre, Catherine Ney, mais on s'en rapproche. Donc, est-ce que... Bon, Catherine Ney, je sais très bien que c'est trop douloureux pour elle de lui demander de me donner raison quand je viens de la contredire, mais Marion Mourgue, est-ce que vous pourriez avoir ce petit moment de bonne foi qui me donnerait raison ou non,
je ne crois pas, je vais vous contredire aussi.
Ah, vous êtes
pourquoi,
terrible ce
pourquoi
matin.
Ces deux heures de débat sont très importantes? Parce qu'au sein même de son électorat, les gens ont douté.
Oui.
Or, pour franchir ce plafond de verre, il faut élargir sa base électorale. Comment vous pouvez réussir à percer ce plafond de verre?
Elle l'a élargi par rapport à avant, en 2017.
Pour gagner, il faut faire 50% plus.
Mais ça lui a pris combien de fois, Mitterrand? Ça lui a pris combien de fois à Chirac?
Oui, mais vous êtes
trois
bien...
Trois fois, mais la prochaine
on a
fois, ça fera trois fois pour Marine Le Pen.
Et
on verra.
A changé d'époque, on est quand même dans l'ère du zapping. C'est-à-dire que les gens ne vont pas attendre 20 ans maintenant. Et un candidat, au mieux, se présente trois fois, mais c'est une exception. Elle a de la chance d'arriver à se présenter trois fois. Au bout d'un mandat ou de deux, les Français ont zappé. Donc si vous réussissez pas...
On est dans le seul pays, déjà avant on était dans le seul pays dans lequel on pouvait y aller trois fois. Hein. En général, demander
on
au Royaume-Uni
la
ou aux États-Unis, quand un candidat perdait, bye-bye, il pouvait aller faire des conférences.
Mais sans
mais
ça, le François Mitterrand, Jacques Chirac n'aurait jamais été président de la République. Troisième fois.
Voilà. Et elle a progressé, donc de son point de vue, elle avance vers le succès, et elle va de succès en succès.
Mais il faut réussir aussi à séduire, par exemple, l'électorat républicain. Or, cet électorat républicain a profondément douté pendant le débat, ce qui a fait le succès aussi d'Emmanuel Macron. Donc, si vous n'arrivez pas à séduire ceux qui sont à côté de vous sans être dans votre parti, et en plus, là, elle a déstabilisé au sein même de son parti, c'est foutu. Et ce débat, on va lui en reparler jusqu'à 2022, si elle est
d'accord. Dans
l'entre-deux-tours.
Alors, une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. Et pour être sûr, je réponds le premier. Est-ce qu'elle peut gagner en 2022? Moi, je dis oui.
Je ne dirais pas encore.
Moi, je dis non.
Ah, oui, pas encore, non. C'est très, très difficile. Nous, ici, à Mediapolis, on s'aventure rarement à faire des prévisions, parce qu'en politique...
Bon, parce qu'on se trompe tout le temps.
Comme je disais à ma mère, les météorologues, ils prévoient 8 jours, les politologues, ils expliquent ce qui vient de se passer. Mais alors, la semaine dernière, j'ai un ami qui m'a dit, vous vous êtes bien plantés tous en nous annonçant que le Parlement allait accepter l'accord... le nouveau deal de Johnson. Je lui réponds, va pas trop vite. On n'a ni gagné ni perdu.
Oui, parce que c'est un oui, mais.
Voilà,
c'est ni oui ni non. C'est, oui, c'est vrai. Ouais. On s'est trompé à moitié.
Alors, en 2022, quand on fera Mediapolis, Catherine, j'ose exprimer une préférence et je m'en parle un peu plus sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude. J'espère que vous avez raison, mais il est possible que non. Je pense en effet que la situation... Vous savez à combien sont les... Très loin de l'élection. Donc pas significatif en termes de prévision, significatif en termes d'un certain rapport de force aujourd'hui. Vous savez à combien sont les sondages d'intention de vote de second tour aujourd'hui entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron?
Non.
55-45. Mais c'est très 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 peu. Si elle est déjà à 45...
Oui, mais ça...
Mais d'où le jeu dangereux auquel se livre Emmanuel Macron en la plaçant de fait comme son opposante.
Et d'où le jeu dangereux auquel se livre le Figaro, en donnant une telle importance aux micro-sujets, voile et listes communautaires.
Mais je ne crois pas que ce soit des micro-sujets.
Donc quand c'est le Figaro, ce n'est pas des micro-sujets, ils ont bien raison. Quand c'est Macron, il a tort, il fait un jeu dangereux.
Ah non, mais nous, on explique ce qui se passe. Il suffit, on va quand même sur le terrain, on voit la préoccupation des Français. On peut rester dans le 7e arrondissement et se dire ça n'existe pas, il n'y a pas ces listes. Il suffit d'aller dans les quartiers et dans d'autres territoires un peu plus reculés des grandes métropoles pour voir que ça existe. Ensuite, Emmanuel Macron, il est président de la République. Donc il a quand même une responsabilité, un, de parler à tous les Français, deux, de ne pas faire une campagne présidentielle avant 2022.
Eh bien, on va en rester là-dessus avec deux petites minutes de pause et puis ensuite on en vient justement à quelques mouvements sociaux et protestataires en France et à la façon qu'a ou devrait avoir le pouvoir d'y répondre. A tout de suite.
Mediapolis, c'est tous les samedis matins sur Europe 1. Marion Mourgue est grand reporter au Figaro et co-auteur avec Gérard Larcher de Contre-pouvoir paru aux éditions de l'Observatoire. Elle est ce matin votre invitée, Catherine Ney et Olivier Duhamel.
Alors, les colères grondent en France, la colère de peuple gronde à travers le monde. Une des grandes différences, c'est que chez nous, jusqu'à nouvel ordre, ce sont des colères éclatées. Écoutez, par exemple, à propos des conducteurs à la SNCF, la réaction d'Emmanuel Macron en déplacement à Mayotte mardi.
Les ministres, le ministre des Transports était avec le Premier ministre ce dimanche, font ce qu'ils doivent faire dans un contexte qui, on le sait, difficile. J'ai une pensée pour tous nos compatriotes qui ont pu être bloqués dans des moments de départ en vacances par les transports, ou nos compatriotes qui peuvent être aujourd'hui bloqués pour aller au travail. Je pense que le pays doit débattre. Des transformations doivent se conduire aussi, parce que nous devons changer beaucoup de choses. Ça ne justifie pas, en quelque sorte, à mes yeux en tout cas, de bousculer le quotidien de certains de nos concitoyens qui est déjà parfois largement contraint.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Macron, dans le fond, a une réaction pro-usager du rail et critique des conducteurs. Et puis, sur les protestations des agriculteurs devant toutes les préfectures, ce sera l'inverse. C'est-à-dire qu'il va faire une déclaration de compréhension des agriculteurs sous-estimés, maltraités.
Ben, c'est normal, parce que les victimes avec la SNCF, c'est quand même les voyageurs. C'est pas les... Surtout que dans cette histoire, bon, on voit bien que même si le mouvement au départ est parti d'un truc local spontané et sûrement sincère, mais bah, on voit bien que c'est la CGT qui en a profité pour tordre le droit du travail. Parce que le caractère, ce droit de retrait dépend de l'initiative d'un seul. Bon, c'est-à-dire s'il pense... Et là, le droit de retrait... selon le droit du travail, dit que s'il y a danger grave et imminent. Donc, dans ce cas, c'est possible. Et le salarié, dans ce cas, n'est pas, on ne lui enlève pas son salaire. Etc. Là, non. C'est devenu général. Ouais, expliquez-moi si sur tout le territoire, le même jour, à la veille des vacances, il y avait un droit, il y avait vraiment un danger imminent et vraiment, ça allait, vraiment, tous les trains allaient dérailler. Non, c'est que la CGT en a profité, a lancé ses troupes. Hein, et c'est illégal, alors est-ce qu'il faut sanctionner c'est la réponse de la SNCF. En tous les cas, voilà, c'est que la CGT se prépare au 5 décembre pour espérer mettre le pays...
Marion Mourgue, est-ce que vous avez pour la CGT une sympathie un peu plus grande que celle qu'éprouve Catherine Ney?
Non, pas spécialement, mais c'est surtout qu'on voit qu'Emmanuel Macron joue l'opinion publique. Oui. En se disant et en essayant d'installer un rapport de force. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à un hiver explosif. Il ne faut pas oublier que dans 15 jours, on fête le premier anniversaire des Gilets jaunes. Et donc, peut-être qu'on aura un mouvement massif pour ce premier anniversaire. Et juste après, on a le 5 décembre, avec une grande grève annoncée. Et le 5 décembre, c'est aussi en 95, cette date symbolique, où il y a des milliers de personnes, voire même un peu plus, qui vont dans la rue pour dire non à la réforme des retraites d'Alain Juppé.
Et être bloqué pendant 15 jours. Oui.
Donc, il y a ce contexte très symbolique. Et on voit bien que là, le gouvernement essaye de déminer juste avant. Je ne suis pas sûr qu'il ait réussi.
Alors, vous croyez à un grand mouvement susceptible de durer, de rassembler tout le monde?
Moi, on n'a pas dit ça.
Ah bon, c'est ce que
j'ai compris. Non, on ne le croit pas. C'est la CGT l'espère, mais moi, je ne sais pas, non.
En tout cas, pour l'instant, il ne s'est rien produit de tel, ni l'année dernière, avec les Gilets jaunes, ni dans les dernières tentatives de grève étendue et interprofessionnelle. On verra pour le 5 décembre. Oui, pardon.
Si ce n'est que vous avez ce texte de la réforme des retraites et que pour la première fois, il y a une préoccupation qui est partagée par des gens très différents en France, des âges très différents, des classes sociales. Et donc, ça peut être, et on le voit dans d'autres pays, un petit détonateur, un texte qui fait que ça s'embrase.
En tout cas, là où ça s'est embrasé, notamment à Beyrouth et à Santiago, enfin plus exactement au Liban et au Chili, parce que c'est pas du tout que dans les capitales justement, ce qui est un des éléments importants. Ça s'est embrasé, ça c'est le seul vrai point commun avec les Gilets jaunes, sur une petite mesure d'augmentation de quelques centimes du ticket de métro à Santiago et d'instauration d'une taxe sur WhatsApp au Liban. Petite pour les riches, pas petite pour ceux qui ont besoin de WhatsApp et où tout d'un coup l'idée de devoir payer 6 euros chaque mois pour avoir le droit de continuer à utiliser WhatsApp était une vraie amputation du pouvoir d'achat. Et du coup, il y a explosion populaire. Et ce qui est extrêmement frappant dans les deux cas, c'est les réactions du pouvoir. C'est-à-dire que, alors le plus caricatural, c'est au Chili. C'est-à-dire que la réaction immédiate du président chilien,
c'est sanctions, ouais.
C'est la dénégation complète, couvre-feu, appel aux soldats dans les rues, arrestation, parfois pire, et déclaration comme quoi c'est un mouvement de délinquants fait par ce qui ressemble à une organisation criminelle, c'est-à-dire un texte d'une violence inouïe. Et deux jours après, exactement le contraire. Écoutez Pineda.
Pero es verdad también Mais il est vrai aussi que les différents gouvernements n'ont pas été ou ne sont pas capables de reconnaître la gravité de la situation. Une situation d'inégalité, d'abus, qui ont poussé des millions de Chiliens à exprimer leur colère spontanée et authentique. Je reconnais cette erreur de jugement et je demande pardon à tous mes compatriotes.
C'est que plusieurs journaux chiliens faisaient hier le parallèle entre la fronde chez eux et la crise des gilets jaunes chez nous, en rappelant que la recette du président Macron, ça avait été d'organiser un grand débat dans le pays et puis de lâcher du lest, parce que quand même la facture, il a lâché 12 milliards d'euros, hein, ce qui n'est pas rien.
Oui, et Pinheiro annonce qu'il lâche des choses, mais il y a une différence assez fondamentale entre le gilet jaune. Il y a des points communs qu'on vient d'évoquer, mais il y a une différence assez fondamentale. Le mouvement des gilets jaunes était un mouvement contre les riches et contre les pauvres. C'était un mouvement de classe moyenne qui ne supportait pas qu'on donne aux assistés et pas à eux. Le mouvement au Chili est un mouvement beaucoup plus unificateur, où dans la rue, vous avez la jeunesse, vous avez des classes populaires et vous avez des classes moyennes. C'est très différent.
Oui, et moi je dirais que sur le Liban, ce qui est très intéressant, parce que cette taxe sur le WhatsApp, aussitôt le gouvernement l'a retirée, mais ceux qui sont descendus dans la rue, on n'a jamais vu ça. C'est les chiites, c'est les sunnites, oui. C'est les chrétiens, oui. Qui s'en prennent à cette division institutionnalisée où chaque camp a ses télévisions, son système et tout ça, sur lesquels s'enrichissent les leaders. Hein, je veux dire, et c'est une corruption généralisée.
C'est là où
et
je
ça,
pense.
C'est ça. C'est
là où
très
je pense qu'on peut parler plus légitimement qu'à propos des gilets jaunes de mouvement populaire. Dans deux sens du terme. Mouvement populaire, parce que...
Qui ne veut pas dire populiste.
Oui, absolument. Mais voilà. Qui sont très motivés par l'accroissement des inégalités. Et mouvement populaire dans le sens que ce sont des mouvements pluriclassistes au Chili, pluriethniques aussi au Chili d'ailleurs, parce que les Mapuches, pluriethniques, pluriconfessionnels, au Liban. Et du coup, c'est ça qui est nouveau et qui est fort.
Oui, mais moi je trouve qu'il y a deux points communs, en plus de cette allumette sur un texte, c'est l'idée que...
Attendez, deux points communs.
Oui.
Vous nous le dites dans quelques instants.
Merci d'avoir choisi Europe 1 de 10h à 11h le samedi. Vous écoutez Mediapolis. Ce matin, Olivier Duhamel et Catherine, vous recevez Marion Mourgue, grand reporter au Figaro.
Et Marion Mourgue n'a qu'un plaisir, c'est de me contredire. Donc après avoir essayé de montrer la grande différence entre les mouvements populaires au Liban et au Chili par rapport aux gilets jaunes, eh ben elle va vous dire le contraire.
Voilà, il y a deux points communs en plus. Il y a cette idée que la classe politique ne comprend plus rien et n'écoute plus rien. Et donc, on a l'impression que de cette crise sociale, on débouche sur une crise politique. Et ça, on l'a vu aussi avec les gilets jaunes. On le voit dans chaque mouvement ailleurs. Le troisième point commun, c'est la méthode. C'est l'idée que, pour se faire entendre, il faut aller dans la rue. Et comment on s'organise les réseaux sociaux. Ce qui rend ces mouvements très insaisissables, parce que c'est une structure horizontale et non plus verticale, comme on l'avait connu. Donc,
je suis obligé de dire que vous avez raison. Mais
et je peux rajouter quelque chose,
Pierre Blanche. Vous allez rajouter dans un instant, mais je veux préciser, Marion Mourgue a raison. Mais je n'ai pas tort. C'est-à-dire, elle a raison, il y a d'autres points communs, mais je n'ai pas tort, les différences que j'ai énoncées tout à l'heure restent valables.
Bon, et moi j'en rajoute une, c'est que tous ces mouvements, en ce moment, parce que dans le monde entier, on défile et on manifeste, il n'y a pas qu'à Santiago du Chili ou au Liban, eh bien, il n'y a pas de leader.
Oui.
C'est comme pour les gilets jaunes. Oui. Il n'y a pas un leader qui s'impose vers lequel tous ces gens...
Joker. Voilà. Le leader, c'est Joker.
Voilà.
Le film.
Et le film et le masque. Ce qui est extraordinaire, c'est... C'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a des grands mouvements de sorte d'effet domino, si vous voulez. Il y a des grands mouvements. On n'a pas attendu les réseaux sociaux et la mondialisation. En 1848, en Europe, vous avez eu des mouvements pour reconnaissance des nations et extension des libertés.
Oui, vous aviez fait un reportage et pas tant.
En 1848, oui. Merci beaucoup, Catherine. Mon âge est grand, mais malheureusement, pas à ce point-là. En 68, s'il y a bien des événements qui ont eu. Une dimension, une portée mondiale et qu'on a vu dans beaucoup de pays.
Oui, absolument, avec les mêmes images de jeunes et cheveux.
Il y avait des différences, mais il y avait des points communs de Prague à San Francisco en passant par Berlin et Paris. Bon, donc ce n'est pas entièrement nouveau. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui a été dit tout à l'heure, qui est un vrai problème dans le fait que de donner à des peuples le sentiment que seules les meutes payent. Pas la protestation populaire, mais l'émeute.
Oui, mais alors, il y a une enquête qui est faite par le New York Times qui montre que plus la contestation se développe, moins elle va obtenir de résultats, et qu'alors on risque de se retrouver dans un monde où les soulèvements populaires perdent leur caractère exceptionnel pour finir par faire partie du paysage. Voilà, que ça va être une mode de vie, c'est-à-dire des gens qui descendent dans la rue, qui n'ont pas de leader, et puis il faut lâcher un truc, les gens rentrent, sortent, et que c'est ça le monde qui s'annonce.
Hypothèse intéressante, mais ce qui compte aussi, c'est l'étendue de ce qu'on lâche, comme vous dites, parce que est-ce que, et ça, je n'ai pas la réponse, mais Malraux disait de temps en temps, ce qui est intéressant, c'est les questions, pas les réponses. Il y a une question intéressante qui est-ce que les concessions plus égalitaires faites aussi bien en France qu'au Chili, etc., sont une petite parenthèse pour calmer le jeu, ou sont un tournant profond où, après des décennies égalitaires, nous sommes passés à des décennies récentes très inégalitaires, et est-ce que c'est à nouveau est-ce que c'est un cycle nouveau qui commence ?
Mais je crois que c'est la vraie question. Est-ce qu'on arrive à un changement de logiciel ? Ou est-ce que c'est simplement un changement conjoncturel ? Après, c'est impossible de répondre à cette question, mais la réponse politique qui va naître de ça est aussi intéressante. Est-ce que c'est l'avènement des populismes ? Est-ce que c'est une solution démocratique ?
Et est-ce que les peuples en révolte garderont une capacité d'expression si on voulait n'en faire qu'une parenthèse ? C'est encore une fois, on n'a pas la réponse, mais de temps en temps, essayez de poser les bonnes questions.
On voit bien aujourd'hui que pour certains, bon, le mouvement des Gilets jaunes est en train de s'étioler, mais que pour certains qui continuent, c'est devenu aussi un mode de vie de tous les week-ends, se retrouver ensemble, faire un peu de grabuge dans les villes.
C'est un peu fini, ça, malheureusement.
Ben, ça continue quand même dans les villes, comme ça. Et en tous les cas, pour les Français, c'est le ras-le-bol. Parce que beaucoup de commerces sont fermés, il y a eu du chômage technique, le tourisme en a pâti. C'est très, très lourd pour un pays à supporter ça pendant 8 mois.
Et alors, il y a eu un autre sujet médiapolitique à nos portes, non pas en Catalogne, mais sur toute l'Espagne, qui a donné lieu à un événement et à des très grandes controverses. Et grâce à Alice Baudry, vous saurez lequel dans quelques instants.
C'est Mediapolis sur Europe 1, avec vous Catherine Ney et Olivier Duhamel. On vous retrouve avec votre invité Marion Mourgue, qui est grand reporter au Figaro.
Et ce sujet qu'Alice Baudry, directrice de la stratégie et du développement à l'Institut Montaigne, a repéré pour nous, c'est un article du grand quotidien espagnol, plutôt orienté à droite, El Mundo, intitulé « Francisco Franco quitte la vallée des Caídos » et qui a été publié ce jeudi. C'est donc l'exhumation de l'ancien dictateur, du général Franco, retransmise en direct à la télévision nationale, et qui a déclenché des tensions politiques gauche-droite très fortes en pleine campagne électorale. L'exhumation a eu lieu à l'intérieur, discrètement, à l'abri du public dehors. L'emplacement de la tombe de Franco était recouvert d'une tente accessible uniquement par les travailleurs responsables de l'extraction de la pierre tombale et du cercueil. Furent témoins en première loge seulement le ministre de la Justice et les deux petits-enfants de Franco, Maria del Mar et José Cristobal Martínez Borriu. Un grand nombre de journalistes étaient présents, 500 journalistes nationaux et étrangers postés sur la route depuis l'aube, des drones survolant Suelgamuros et Mingo Rubio, des dotations de la garde civile, des hélicoptères, des voitures funèbres, des véhicules transportant les parents et les autorités gouvernementales. Il n'y avait pas de drapeau, à l'exception du drapeau préconstitutionnel qui enveloppait le cercueil en 1975, lorsque Franco fut enterré, pas d'hymne ni d'honneur militaire. Voilà pour ce qui s'est passé. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la relecture politique au fil des décennies d'un événement, la variation de ces instrumentalisations politiques. Franco, quand il est mort, le roi Juan Carlos, qui l'avait désigné comme successeur et qui va être le père de la transition démocratique, Juan Carlos a décidé que Franco serait inhumé dans le Valle de los Caídos, et qu'on ferait une basilique spéciale. Franco n'avait pas laissé de consigne sur après sa mort. Mais que dans cette basilique seraient également accueillis des victimes des deux camps de la guerre civile. Et il y a eu 60% de ceux qui ont été réenterrés sous cette basilique étaient républicains et pas franquistes. Ce qui fait qu'à l'époque, cette décision était perçue comme pas du tout une décision si franquiste que ça. Un petit peu pour basilique, parce que c'est Franco, le Franco du national-catholicisme, de la guerre civile, mais quand même, dépasser les choses en accueillant aussi des gens de l'autre camp. Et puis, ce n'a pas été fait à Madrid, ça a été fait à 50 km de Madrid, pour pas qu'il y ait les pèlerinages permanents, etc. Et le Parti communiste espagnol, à l'époque, a approuvé la création de cette basilique. La pierre tombale qui vient de recouvrir le cercueil du dictateur permet d'ouvrir l'avenir de l'Espagne. Incroyable, n'est-ce pas? Et maintenant, nous nous retrouvons un peu plus de 40 ans après, et la gauche qui a considéré que, déjà, ça remonte à Zapatero en 2007, qui a fait voter une loi comme quoi on devait retirer tous les signes visibles du franquisme. Et par exemple, il restait deux statues du général, statue équestre, on a enlevé la dernière à Santander. Et puis là, maintenant, cette désinhumation de la basilique et puis le réenterrement plus modeste ailleurs, et la droite espagnole, et la droite et Ciudadanos d'ailleurs, le Parti Populaire et Ciudadanos qui protestent contre l'instrumentalisation politique. Donc dans l'histoire du même événement sur le corps du dictateur, c'est quand même assez fascinant, non ?
Ben oui, là, vous avez tout dit, mais là, sur le Parti communiste qui approuve alors que les franquistes remerciaient le caudillo de les avoir débarrassés du communisme, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Mais moi, dans l'histoire de Franco, c'est son agonie que je retiens, qui a duré des mois et des mois, et la famille voulait absolument que ça dure le plus longtemps. Et alors qu'il avait le corps envahi par les escarres et la gangrène, eh bien, on lui a coupé les pieds. Parce qu'il avait les pieds dans un état épouvantable qui pouvait entraîner sa mort, pour le prolonger. Et donc, il a été enterré sans pied.
Ah.
Je l'apprends, je ne savais pas.
Dans c'est un bon, contexte... vous savez l'histoire aussi, cher jeune journaliste politique branché sur
vous
l'actualité.
Ne vous inquiétez pas, on arrive à lire. Après, on n'est pas au courant de la situation de
j'en
tous
doute
les pieds
pas.
Des
j'en
politiques.
J'en doute pas, mais est-ce que vous aviez lu dans un journal, dans tous les papiers des journaux français, sur... ce qui vient de se passer, le transfert du cadavre de Franco ailleurs, est-ce que vous aviez lu qu'à l'époque les communistes avaient accepté? Non, vous ne l'avez pas lu.
Non, je ne
moi, j'ai remarqué, je l'ai lu dans.
Je
rebondis
ça là sur les pieds, hein, pas sur le reste.
Oui, c'est le pied. Non, moi je l'ai lu dans. Il faut mettre les sources hein, parce que je l'avais oublié. Je l'ai lu dans un blog gratuit qui s'appelle Telos, T-E-L-O-S, qui est très intéressant et c'est Benoît Pellistrandi qui a écrit un texte sur tout ça. Et donc, ceux qui ne sont pas abonnés à Telos et qui aiment bien des analyses, je le recommande au passage. Mais allez-y sur les pieds, puisque vous, c'est ça qui vous intéresse.
Non, non, c'est ce détail qui me fait réagir. Mais plus largement, c'est surtout... c'est compliqué, une exhumation dans un... On n'est jamais à l'abri que ça réveille justement les passions sur un sujet quand même aussi compliqué. Dans une Espagne qui est elle-même aujourd'hui un peu avec des soubresauts, quoi. Donc, c'est... Attention, danger aussi avec ce...
Ouais. Nous, d'ailleurs, sur Pétain, ça s'est calmé. Il y a les lieux, il y reste. C'est terminé, on n'a pas assez
non,
de débats.
Alors là,
oui. Non, mais ça, on n'a pas des grands débats. Le Figaro consacre plus de place au foulard, au voile et aux listes communautaires qu'à la tombe de Pétain.
Si ce n'est que la tombe de Pétain est souvent vandalisée, donc il y a encore des passions. Donc, il y a encore du débat.
Et alors, pour la chanson, je vous ai choisi, pour ceux qui connaissent, ils seront contents. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir une très grande chanteuse des années 60, fin des années 50, années 60, hein, qu'on appelait la Piaf, l'Edith Piaf chilienne, qui s'appelait Violeta Parra. La plus connue de ses chansons, que vous pourrez écouter facilement ailleurs, s'appelle Gracias a la vida, Merci à la vie, qui est une chanson très optimiste. Merci à la vie qui m'a donné les yeux pour distinguer le noir du blanc, etc. Et il y a une autre chanson beaucoup, beaucoup plus sombre, qui en fait écho, et qui s'appelle Maldigo, c'est-à-dire ce que je maudis. Et c'est celle-là que j'ai choisie par contraste.
Parce que vous êtes pessimiste.
Non, pessimiste de une fois de plus de l'intelligence, optimisme de la raison. Grande est mi dolor, ma douleur est si grande. Allez, remontez-vous le moral, c'était juste pour vous
montrer. Grâce à toi, merci.
Oui, mais de temps en temps, il faut regarder le noir aussi et le sombre. Faites écouter cette émission formidable en podcast sur europe1.fr grâce à Marion Mourguet et Catherine Ney, bien entendu, grâce à Capucine Patouillet qui l'a préparé, grâce à Julien Blanc qui l'a réalisé, grâce à Géraldine, grâce à vous tous.
Et grâce
adios
à vous.
Maldigo, plus de Maldigo, en podcast sur europe1.fr.